persécutant avec éclat les chrétiens, les juifs convertis à Christ, mettant à mort même, mettant en prison. Et ce Paul va rencontrer Christ sur le chemin de Damas et va devenir son outil, le fer de lance de l'annonce de l'évangile auprès des non-juifs. Alors peut-être un premier point d'ordre sur le nom de Paul, pour être utile. Alors, pendant longtemps, je pensais, et je pense que bon, c'est quelque chose qu'on croit communément, que Saul, c'était son prénom avant conversion, et Paul, son prénom après, qu'il se soit tourné vers Dieu. Et du coup, ce n'est pas vraiment le cas. On va voir dans le passage qu'on lit que Jésus, quand il appelle, il va l'appeler Saul. Ananias va continuer en l'appelant Saul aussi. Et même pendant assez longtemps dans Actes, on va continuer à l'appeler Saul. Voilà. Et en fait, Saul et Paul, c'est simplement... Saul, c'est son prénom hébreu, et Paul, c'est son prénom plus romain, comme il était romain. Et du coup, Paul, c'est le prénom latin qui correspond à peu près à Saul. Et du coup, voilà, un exemple, c'est souvent on a des personnes étrangères qui arrivent en France, qui ont peut-être marre que les gens ne sachent pas prononcer leur prénom d'origine, et du coup, ils vont se prendre un deuxième prénom, un prénom que les gens peuvent les appeler. Et du coup, c'est un peu ça l'idée. Pour les Hébreux, Saul était Saul, et du coup, pour les Latins, il était Paul. Et par la suite, dans la fin d'Actes, et puis dans tous ses épîtres, il ne va plus être présenté que comme Paul. Alors peut-être parce que justement, il avait sa mission auprès des non-juifs, et donc il voulait être connu par son prénom latin. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que c'était par préférence? Peut-être, je ne sais pas. Pour la suite du message, j'utiliserai surtout Saul, puisque dans le passage qu'on va lire, c'est comme ça qu'il est présenté. Mais je ne garantis pas qu'il n'y ait pas des Paul qui apparaissent de temps en temps, puisque on le connaît quand même mieux comme Paul. Alors, nous avons trois fois le récit de conversion de Paul dans les Actes, de Saul. Nous avons d'abord dans Acte 9, où c'est Luc qui... c'est la narration de Luc, donc où il va parler, il va présenter ce qui se passe à la conversion. Ensuite, il y a dans Acte 22, Paul qui est... Et là, c'est fin de Acte, donc je peux dire Paul. Et donc là, nous avons Paul qui est devant une foule de juifs qui veut sa mort et qui apporte son témoignage. Et enfin, dans Acte 26, Paul va raconter son témoignage au roi Agrippa et aux autres Romains qui sont là, alors qu'il est emprisonné. Et donc, on va plus se concentrer sur Acte 9 ce matin. Mais du coup, on lira aussi un peu de Acte 26, qui nous donne quelques détails de plus sur son appel. Donc, je vous propose de lire avec moi Acte 9. On va lire à peu près tout le chapitre, même si on se concentre... Non, jusqu'au verset 30. Même si, on se concentrera sur la première partie. Donc je lis dans la seconde 21. Là, nous avons le début. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande à dénommer Saul de Tarse. En effet, il prie, et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui, afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a les pleins pouvoirs de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois, aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme les écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec des disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là ? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer. Mais leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Cependant, une nuit, les disciples prirent et le descendirent le long de la muraille, assis dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. L'ayant appris, les frères l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Alors je vous propose de voir 4 étapes de cette conversion ce matin. Nous allons d'abord voir Saul avant sa conversion. Ensuite, nous allons voir le moment de sa conversion, son appel particulier de Jésus, et enfin, l'après. Comment est-ce que Saul agit après sa conversion? Et je pense que c'est intéressant en regardant Paul avant sa conversion, puisqu'on voit en lui un certain nombre de qualités qui, aujourd'hui, pour certains, nous feraient dire qu'il est sauvé. Et du coup, je vous propose de regarder plusieurs faux raisonnements sur le salut qu'on peut retrouver en Paul. Un premier faux raisonnement, c'est que ceux qui sont religieux seront sauvés. Alors, là, Saul était d'une pratique religieuse remarquable. Notamment dans Acte 22, on voit qu'il faisait partie d'une des sectes les plus strictes des pharisiens. Ces pharisiens qui obéissaient à la loi de façon pointilleuse. Jésus dit même qu'ils donnaient la dîme des herbes de leur jardin. C'est dire à quel point ils étaient précis, ils faisaient attention à respecter les règles. Saul connaissait toute la loi de Moïse, et en plus toute la loi des juifs pratiquants, donc tout ce qui venait autour. Il était zélé pour la défense de la foi. Là on l'a bien vu. Il était là quand Étienne a été lapidé, aux 2 chapitres avant. Il était, on va dire, sur... il menait le combat contre ces faux juifs, ces personnes qui croyaient en Jésus, à tel point même qu'il est parti à Damas, donc qui est quand même pas à côté. C'est déjà un voyage un minimum conséquent pour l'époque. Sûrement, du coup... il a dû mettre en pause sa carrière professionnelle aussi. On sait qu'il était faiseur de tentes. Alors, est-ce qu'il travaillait aux tentes en ce moment-là? Bon, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, voilà, il donnait tout pour Dieu, pour ce qu'il croyait. Et de notre point de vue humain, on peut avoir ce regard sur des gens encore aujourd'hui. C'est sûr que nous voyons l'extérieur, nous voyons ce que les gens font, nous voyons leur piété qu'ils nous montrent. Et c'est vrai que, par exemple, dans Matthieu 7,16, Jésus dit que c'est à leurs œuvres que nous reconnaissons les chrétiens. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Être religieux dans une autre religion, ça ne sauve pas. Saul était d'une religiosité impeccable, mais il ne connaissait pas Jésus. Et donc les Juifs qui ne connaissent pas Jésus aujourd'hui, ils ne sont pas sauvés. Les personnes faisant le bien, étant dans l'humanitaire, peut-être des personnes qui jeûnent, qui pratiquent une certaine spiritualité, s'ils n'ont pas Jésus, s'ils ne croient pas en Jésus, ils ne sont pas non plus sauvés. Et même dans le christianisme, il ne suffit pas de venir à l'église, de donner aux offrandes, de participer aux activités. Même lire sa Bible et prier ne suffit pas pour être sauvé. Mais voilà, nous reviendrons à comment être sauvé. Une deuxième fausse compréhension. Certains pensent que ceux qui croient à quelque chose de façon sincère seront sauvés. Ce qui compte, c'est cette foi sincère. En effet, une pratique religieuse ne veut pas dire que le cœur y est. Et donc, peut-être que ce n'est pas juste le minimum religieux qui compte, mais ce qui compte aussi, c'est se donner à fond, d'être sincère. Mais Saul, manifestement, lui aussi, il était sincère. Je veux dire, il y avait beaucoup de juifs qui ne se donnaient pas comme Saul. Et il était convaincu de la foi juive, convaincu que Jésus n'était pas le Messie, convaincu jusqu'à persécuter ceux qui croyaient. Mais Jésus est très clair sur cette question. Dans Jean 14, 6, par exemple, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple d'une chaise. Si on a une chaise, on peut lui faire confiance. On peut se dire « Il va tenir notre poids. » Voilà, cette chaise... elle va tenir quand je m'assois dessus. Je peux mettre ma foi en cette chaise. Mais si c'est une mauvaise chaise, peu importe ma foi. Si je m'assois dessus, elle va se casser et je vais me retrouver par terre. Et donc, ce qui compte, ce n'est pas la qualité de notre foi, la sincérité de notre croyance, mais l'objet de la croyance. L'objet de la personne en qui nous mettons notre foi. Et cette personne, c'est Jésus. Et donc, si nous mettons notre confiance ailleurs, nous ne pourrons pas être sauvés. Une autre fausse compréhension serait que ceux dont les parents sont sauvés, sont sauvés. Paul était juif. Il était intégré dans la culture, dans les traditions juives. Les juifs étaient quand même le peuple choisi de Dieu. Donc, on pourrait se dire, il était quand même bien parti. Il était... au bon endroit pour être sauvé. Et aujourd'hui, certains se considèrent chrétiens parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne. Ou peut-être parce qu'ils ont été baptisés peu après leur naissance. Et bon, chez les catholiques et les protestants, disons, on est membre de l'Église parce qu'on est né dans la paroisse, c'est peut-être particulièrement vrai. Mais chez les évangéliques aussi, on peut avoir cette... cette idée que je suis né dans une famille chrétienne, je suis venu à l'église toute ma vie, je viens à l'église tous les dimanches, du coup, je dois bien être chrétien. Mais avoir des parents sauvés ne nous sauve pas. Et donc, après avoir regardé Paul, qui il était, et avoir réfléchi à peut-être qu'est-ce qui fait que Paul n'était pas sauvé, Saul n'était pas sauvé, qu'est-ce qui a donc sauvé Saul ? Alors Saul, sa conversion a eu lieu quand il a rencontré Jésus. Alors lui, il l'a rencontré de façon frappante, de façon directe, avec Jésus qui lui a posé cette question, « Pourquoi me persécutes-tu ? » Et clairement, donc, ce qui manquait à Saul dans sa théologie, dans ce qu'il croyait, c'était Jésus. Il avait toute cette connaissance de l'Ancien Testament, connaissance de la loi, mais lui manquait Jésus. Et je vous propose de lire dans Actes 26, à partir du verset 14, où Paul va raconter d'une façon différente à ce que Jésus lui dit. On va partir du verset 14. Donc, acte 26, 14. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Et donc là, on voit que Paul, Saul, avait un peu plus de détails dans ce que lui disait Jésus. C'était pas juste « Pourquoi me persécutes-tu » Et puis il dit « Ah, d'accord, tu es Jésus, très bien, je change de bord. » Mais Jésus lui donne des infos en plus. Il va lui parler de la foi en qui ? De la foi en Jésus. Et de cette foi, grâce à laquelle on peut avoir le pardon des péchés et l'héritage avec les saints, la vie éternelle. Et donc là, c'est une autre partie qui manquait de Paul. C'est une autre partie qui manquait dans la compréhension de Paul. C'est pas juste Jésus qui est le Messie, qui change les choses, mais Jésus qui apporte le salut par pure grâce. C'est pas juste, bon, il y a Jésus le Messie en plus, mais je dois continuer à faire, à obéir la loi pour obtenir le salut. C'est Jésus qui offre par grâce ce salut, par la foi seule en lui. Et donc, ce n'est pas faire qui compte, ce n'est pas la religiosité, ce n'est pas la sincérité, on va dire, de notre spiritualité, ce n'est pas même, où nous sommes nés, dans quel cadre nous sommes nés. Ce qui compte, c'est Jésus, et c'est mettre notre foi en lui. Et Paul, seul, va se retrouver aveugle pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, donc on a 3 jours de jeûne, on dit qu'il ne mange rien, il ne boit rien pendant ces 3 jours. Il y a aussi de la prière, puisque quand Ananias est envoyé vers Saul, il était en train de prier. Et on ne sait pas dans quel état d'esprit était Saul à ce moment-là. Mais on peut imaginer la remise en question. J'ai tout donné pour persécuter ces chrétiens, ces personnes qui croyaient en Jésus. Et en fait, ils avaient raison. C'était Jésus le Messie. La remise en question sur ses actions, ses actes, peut-être même cette foi en Dieu qui devait être plus importante que les œuvres, sûrement qu'il y a eu une demande de pardon, une demande de l'éclairer toujours plus sur ces nouvelles réalités. En tout cas, on a ces 3 jours où il était aveugle, et peut-être il n'avait que lui et Dieu pendant ces 3 jours. Et quand Ananias vient, de façon, il n'était pas très heureux à la base, mais quand il vient, Ananias va l'appeler frère. Va l'appeler frère alors que c'était le persécuteur, l'ennemi des chrétiens. Prier pour qu'il retrouve la vue, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et il va l'inviter directement à se lever. Et il va être baptisé. Alors, là on a quelque chose de très fort, de très direct. On a Paul, ennemi de Dieu, qui marche sur le chemin, qui reçoit une révélation de Dieu, qui, accompagné par Ananias, on va dire pour la suite directe de sa conversion. Mais au final, on voit que ce qui manquait à Paul n'était pas si grand. Que finalement, là, ce qu'il avait besoin de découvrir était peu de choses. Et nous aussi, voilà, c'est pas si compliqué. C'est pas si difficile de venir à Christ. Nous avons ce témoignage de Paul, qu'on va, voilà, on a tout le reste de la Bible qui nous parle de Jésus, de ce qu'il a fait. Et nous pouvons aussi passer des ténèbres à la lumière par la foi en Christ. Si nous nous repentons de nos péchés, si nous mettons notre foi en lui, en Christ qui est mort à notre place, ben du coup, on accédera à ce salut. On accédera à cet héritage. Et du coup, ce n'est pas parce qu'on fait qu'on y arrive, mais par la foi. Ce n'est pas ce qu'il faisait qui a sauvé Paul, mais c'est cette foi qu'il a mis en Christ. Et je vous propose de revenir sur l'appel de Saul. Alors, on peut peut-être trouver ça un peu injuste. Jésus lui-même apparaît pour dire à Saul de changer de voie, pour lui annoncer le rôle que Dieu a prévu pour lui. Le tout corroboré, au cas où il pensait que c'était peut-être des hallucinations, par une cécité miraculeuse qui dure 3 jours et qui miraculeusement revient. Et voilà, on se dit, c'est quand même facile de croire dans ces cas-là, quand on a Jésus qui apparaît devant nous, qui même nous rend aveugles, disons physiquement. Et c'est vrai que l'action de Dieu dans la conversion de Saul est particulièrement visible. Là, clairement, on voit Dieu qui agit. Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce choix. Et une première raison est que, oui, là on a une action de Dieu spectaculaire, mais de toute façon, l'action de Dieu est nécessaire pour chaque conversion. Il est sûr que le Saint-Esprit œuvre dans le cœur des incroyants. Dans Jean 16, 8, Jésus dit que le Consolateur va être envoyé pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et dans d'autres passages, voilà, Paul nous dit que nous semons, nous arrosons, mais que c'est Dieu qui fait grandir. Donc oui, Saul a eu, on va dire, la chance d'avoir une action de Dieu spectaculaire pour lui faire changer de voie. Mais nous aussi, le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs. Et il travaille le cœur des non-croyants. Une autre raison pour cet appel spectaculaire, c'est peut-être aussi pour marquer l'authenticité du ministère de Paul par la suite. Déjà, les chrétiens avaient du mal à accepter ce persécuteur dans leur rang. On le voit bien, ils avaient tous peur de lui. Et voilà, ça n'a pas non plus été facile de passer le cap de l'annonce de l'évangile aux non-païens, aux non-juifs, aux païens. Les apôtres, les chrétiens juifs, ont eu du mal à faire le pas d'annoncer l'évangile aux non-juifs. Et donc, avoir, on va dire, le ministère de Saul, le ministère de Paul, qui est marqué de ce sceau d'authenticité, qui montre qu'il n'agit pas de son propre chef, mais sous la commande de Christ, c'est aussi une raison de plus pour, on va dire, ce côté spectaculaire. De plus, je pense, on n'a pas trouvé ça injuste, parce que, au final, la conversion de Saul, à ce moment-là, c'était aussi pour notre bénéfice, à nous qui ne sommes pas juifs. Saul se serait peut-être converti plus tard, Les connaissances étaient là, on l'a vu. Il connaissait l'Ancien Testament. Après sa conversion, il arrive à convaincre les autres que Jésus est le Messie. Donc, peut-être, sûrement, qu'il se serait converti plus tard. Mais la conversion miraculeuse de Saul, si tôt dans l'histoire de l'Évangile, dans l'histoire de l'Église, bah, c'était à notre avantage, pour que les non-juifs aient aussi accès à ce salut si beau. Enfin, je pense qu'il est aussi bon d'avoir un mix de témoignages dans l'Église. Des témoignages de changement radical et des témoignages peut-être plus banals. C'est vrai qu'on aime bien ces témoignages de personnes qui vivaient une vie de débauche, qui, je sais pas, ils étaient dans le grand banditisme, ils ont tué des gens et ils ont trouvé Christ et tout a changé. Et c'est vrai que ça nous fait du bien de voir des témoignages comme ça, de voir ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait. Mais je pense qu'il est aussi bon d'avoir des témoignages de personnes peut-être menant une vie plus tranquille, qui n'étaient pas si mauvaises avant, qui n'avaient pas Christ, mais qui ont quand même choisi de suivre Christ sans une action extraordinaire, sans une action nécessairement visible. Les deux exemples de vie sont utiles parce que bah, y a de tout. Nous, je pense que voilà, y en a parmi nous qui ont peut-être des témoignages plus impressionnants, entre guillemets, mais d'autres parmi nous, on était dans une famille chrétienne et petit à petit on a découvert qu'on avait besoin de Christ. Et ce n'est pas mauvais non plus. Et donc, voilà, on a cet exemple, cet appel impressionnant de Paul, de Saul, qui ne devrait pas, on va dire, nous donner envie, mais plutôt nous inviter à remercier Dieu. Et aussi, appel extraordinaire, suivi aussi d'un ordre de mission extraordinaire, peut-être. C'est vrai que le plan de Jésus pour Paul n'était pas, on va dire, une mission facile, puisque directement dans l'appel, Jésus va lui dire « Ah, Ananias va te dire comment tu vas souffrir pour moi. » Et le témoignage de Paul auprès des non-juifs, de tout ce qu'il a vu, de ce qu'il a reçu de Christ, c'est un fort témoignage, un témoignage qui a marqué l'Église, qui nous marque toujours avec tous ces épîtres de Paul. Mais c'est un témoignage qui a eu lieu aussi dans la difficulté, dans la souffrance. Paul n'a pas mené une vie facile, lui aussi a été persécuté. Bon, on pourrait dire, ce n'est que juste alors qu'il était persécuteur avant. Mais, en tout cas, il a continué jusqu'au bout, dans la prison, dans les chaînes, contre l'opposition. Et tout ça, par cette mission particulière d'annoncer l'évangile aux non-juifs. Et donc, Saul, après sa conversion, qui était-il? Et je pense que Saul n'était pas si différent de qui il était avant. Au sens que ce qui le caractérisait, peut-être ses qualités, son contexte n'avait pas changé. Sa religiosité était toujours là. Il continuait à aller dans les synagogues. On voit dans d'autres moments qu'il continue de respecter la loi sans l'imposer aux nouveaux convertis. Il s'engage dans la mission que Dieu lui a donnée. Sa croyance sincère est toujours là. Il est toujours prêt à mourir pour ce qu'il croit, pour Jésus. Son zèle pour Dieu est toujours là. Et voilà, on voit comment il a marqué le début de l'évangile avec le nombre d'églises qu'il a créé, le nombre de conversions à la suite de son action. Même si, on le verra la semaine prochaine, il n'est pas le premier à avoir annoncé l'évangile aux païens, c'est quand même lui qui l'a ouvert au plus grand nombre. Et même, peut-être son attachement à la loi, sa connaissance, il l'a utilisé pour démontrer aux autres juifs que le Christ était le Fils de Dieu, le Messie. Et donc, sa connaissance de la Bible, qui avant était au service de la persécution, il le met au service de Dieu. Et son témoignage n'en est que plus un sujet d'étonnement pour tous. Et voilà, quand nous regardons Paul, voilà, qui il était, qui il est devenu après sa conversion, voilà, je pense qu'il est bon de regarder à nous-mêmes. Nous avons tous un arrière-plan différent, que ce soit scolaire, que ce soit culturel, familial, le métier dans lequel nous travaillons, peut-être nos activités de loisirs, de prédilection. Toutes ces choses, voilà, elles font partie de qui nous sommes. Même si nous sommes une nouvelle création en Christ, nous sommes toujours les mêmes personnes que nous étions avant, à pas mal de niveaux. Même si Dieu transforme des éléments de notre vie qui ne sont pas bons, nous ne sommes pas non plus... On reste, avant et après, une personne qui ressemble sur pas mal de points. Et voilà, Dieu a utilisé Paul, a utilisé son arrière-plan, son contexte, de manière, on va dire, ciblée. D'abord auprès de ses compatriotes juifs, mais ensuite auprès de ses compatriotes non-juifs, comme Paul était romain. Et je pense que quand on se regarde, et peut-être qu'on ne se trouve pas à la hauteur, qu'on ne voit pas en nous des qualités pour accomplir les missions que Dieu nous demande, mais nous sommes la bonne personne pour témoigner là où nous situons. Dieu nous a placés là où nous sommes, et il veut nous utiliser là où nous sommes, avec qui nous sommes. Où que nous soyons, dans n'importe quel contexte que nous sommes, Dieu veut nous utiliser. Et une autre caractéristique de Paul, après sa conversion, il se retrouve avec les autres disciples de Christ. La première étape dans chaque étude, la première étape dans chaque ville où il va, c'est de se retrouver avec ses frères et ses sœurs. La première chose qu'il fait après sa conversion, il va aller avec les disciples à Damas, reprendre les forces. Et quand il tente de rejoindre ses frères et sœurs à Jérusalem, Barnabas va l'aider, mais voilà, il va chercher ses frères et ses sœurs. Et donc, je pense que c'est important aussi, dans la mission que Dieu nous donne, de ne pas chercher à le faire seul, mais aussi de le faire avec nos frères et sœurs. En conclusion, donc Paul, qui est aussi dénommé Saul, nous montre la nécessité de Christ. Il était l'exemple type d'une personne connaissant la parole, connaissant même l'évangile, mais qui cela ne touche pas. Et ce matin, vous vous considérez peut-être comme religieux, comme spirituel, ou peut-être que vous êtes né dans une famille chrétienne, ou peut-être que vous avez été baptisé quand vous étiez petit. Entendez que cela n'est pas suffisant, puisque Jésus annonce que nous pouvons recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle si nous mettons notre foi en lui. Et donc, ce n'est pas en faisant des choses, pas en étant religieux, mais en choisissant de mettre notre confiance dans le mort de Jésus sur la croix. Et donc, n'attendez pas que vous attendiez la voix de Jésus, comme Paul, pour vous tourner vers lui. Paul l'a entendu, on va dire, de façon spectaculaire. Mais nous, Dieu nous parle aussi par sa parole, par les personnes autour de nous. Et par sa parole, il nous tend la main ce matin. Et donc si vous n'avez pas fait le choix de suivre Christ, prenez cette main qui vous est tendue. Et si nous avons mis notre foi en Christ, Regardons à l'exemple de Paul. Paul, après sa conversion, a pris des forces en compagnie de ses nouveaux frères, de ses nouvelles sœurs, avant d'utiliser sa connaissance, son contexte, pour mener à bien la mission que Dieu lui avait donnée. Et peut-être que nous sommes fatigués ce matin. Peut-être que nous ne sentons pas la force de mener à bien notre mission. La mission globale de faire de toutes les nations des disciples, une mission spécifique que Dieu nous a donnée. Eh bien, appuyons-nous sur nos frères et sœurs. Ne partons pas seuls affronter la mission de Dieu sans force. Et peut-être que nous nous sentons mal équipés, pas à la hauteur de ce que Dieu nous demande. Et Paul a utilisé son arrière-plan à bon escient. Nous aussi, Dieu veut nous utiliser là où nous sommes, avec la personne que nous sommes. Et il va le faire avec l'aide de son esprit. Nous sommes arrachés des ténèbres pour être dans la lumière de Christ. Et Dieu nous a choisis tels que nous sommes pour être ses ambassadeurs auprès de ceux qui sont encore dans les ténèbres, nous associant au travail pour son esprit. Et donc ce matin, je vous invite à repartir rassuré. Nous ne sommes pas seuls à l'ouvrage. C'est Dieu qui nous utilise pour construire son Église. Et je vous propose de prier pour terminer. Notre Dieu, c'est vrai que quand je regarde Paul, tout ce qu'il a fait pour toi, peut-être aussi son témoignage si fort, je peux ne pas me sentir à la hauteur de me dire, voilà. C'est vrai que Paul était exceptionnel, et moi, comment est-ce que je suis? Et Seigneur, je sais que tu veux nous utiliser chacun. Là où nous sommes. Tu veux utiliser nos circonstances qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Tu veux utiliser peut-être l'endroit où nous nous situons pour montrer ta gloire, pour témoigner de qui tu es, de ce que tu as fait. Et Seigneur, je te prie que tu nous soutiennes par ton esprit, que tu nous donnes ta force pour continuer à te suivre, continuer sur ce chemin avec toi. Et je te remercie parce que tu nous as dit que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen.